crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une huile sur toile de 80 cm par 90 intitulée « Le lac de Thun et la chaîne du Stockhorn » réalisée en 1905 par le grand artiste suisse Ferdinand Hödler. Elle appartient à une collection privée.
J'avais un penchant particulier pour les couleurs lumineuses, tout spécialement pour le rouge flamboyant. Je me souviens des nombreuses heures matinales quand je me rendais de ma chambre à Gouat, à mon travail à Thun. Comme le ciel flamboyait, tandis que les montagnes baignaient encore partiellement dans l'air bleuté de l'aube, et comme d'un seul coup, la merveilleuse chaîne du Stockhorn déployait toute sa beauté, et dans tous ses détails. Je pouvais encore en augmenter l'effet en regardant à l'envers, en mettant la tête en bas entre mes jambes. Ce fut pour moi une heureuse découverte. Les bords des montagnes étincelaient alors de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et l'énigme insoluble de ce mystérieux phénomène me préoccupa longtemps. Je répétais l'expérience chaque jour de nombreuses fois. Les observateurs doivent m'avoir pris pour un étrange adorateur de la nature. Ferdinand Hödler, 1918.
Et en effet, une chaîne de montagnes bleu pâle traverse tout le tableau. Elle s'élève de gauche à droite, de pic en pic, et la morphologie des massifs qui la composent est soulignée par des lignes bleues plus sombres. Un grand synclinal en V, ou une combe si vous préférez, au centre, laisse culminer la masse plus lointaine, immense, orgueilleuse du Stockhorn. Son sommet est ombré de bleu de Prusse, il est enfoui dans le mystère. La partie droite de la chaîne égrène des massifs qui peu à peu s'effondrent jusqu'à presque disparaître au bord de l'œuvre, à droite. Au-dessus des montagnes, un ciel jaune est traversé de deux lignes de nuages bleu pâle soulignées d'oranger. À leurs pieds, au-dessus des premiers plateaux sur lesquels s'appuient ces montagnes, une mer de brume en lignes parallèles s'élève au-dessus du lac. Au milieu du tableau, un large plan fait écho au ciel et s'étend lui aussi dans toute la largeur. Dans sa couleur orangée s'indistingue l'atmosphère et l'eau parfaitement unies. Dans le registre inférieur, semblable au trait bleu qui sépare les nappes de brouillard, quatre lignes bleues également, tendues comme les traits d'une partition, sont autant de vaguelettes qui bruissent à peine en mourant sur la grève. Quelques cailloux agités par ce faible remous dansent comme des notes au bord de la portée. Ils semblent être, mais au futur, les ruines infimes de la chaîne de géants qui masque l'horizon.
Un paysage qui vous est connu vous touche de plus près. Vous le comprenez mieux le connaissant. Il faut y avoir séjourné pour le comprendre, comme il faut avoir souffert pour traduire la souffrance. Il faut avoir vu les ciels. Le paysage dans lequel vous avez vécu fait partie de vous-même comme un parent.
Nous entendions un extrait des écrits de Ferdinand Hödler. Mais avant de parler du peintre, je vous présente notre invité, celui qui va soutenir avec nous cette lecture, Philippe Dagen, délicieux critique et historien d'art. Philippe Dagen, vous êtes critique, historien d'art, mais aussi romancier, mais aussi professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1, et vous êtes un critique d'art aimé au monde. Et vous avez notamment publié Le Poète, Le Sauvage, Les Voies du Primitivisme dans l'art français. Ça, c'était chez Flammarion en 88, Picasso chez Azan, et vous avez fait un très belle exposition il y a longtemps au musée d'Aquitaine à Bordeaux en 2003 sur la préhistoire, c'est dire l'étendue de vos centres d'intérêt. Vous avez fait une très belle exposition Charles Ratton au musée du Quai Branly en 2013, et d'ailleurs vous en préparez une autre, je crois. De quoi s'agit-il ?
Il s'agira d'essayer de comprendre ce que l'art africain que l'on aurait appelé jadis primitif, qui est un terme qu'évidemment je refuse, que j'ai préféré à tout prendre classique, enfin, ce qu'on appelait, terme encore pire s'il en est, l'art nègre, comment l'art actuel, que ce soit celui d'artistes nés en Afrique ou absolument pas, se l'approprie, le métamorphose, le font parler une autre langue qui est la langue d'aujourd'hui.
Et vous êtes aujourd'hui, c'est pour ça que nous nous retrouvons, le commissaire d'une exposition Odler Bonnet Munk avec un très beau sous-titre, La peinture impossible. Et elle a ouvert le 15 septembre dernier et elle dure jusqu'au 22 janvier 2017 au musée Marmottan. Et dans cette exposition, il y a cet extraordinaire tableau dont nous allons parler de Ferdinand Hodler. Ferdinand Hodler qui a été aimé en France à l'époque de Rodin peut-être, d'Apollinaire aussi, et qui est un petit peu en dehors de notre spectre familier.
C'est ce que j'ai découvert en effet, ou ce que j'ai vérifié avec même une certaine stupeur. Sans doute naïvement, pour l'avoir beaucoup vu exposé en Suisse en particulier, dans plusieurs lieux renommés, et aussi, il faut le rappeler, au musée d'Orsay, mais il y a maintenant un certain temps, je croyais que l'œuvre d'Hodler était bien connue en France, et à en juger par certaines réactions, non. C'est quelqu'un sur lequel il y a encore un certain travail d'accoutumance à réaliser pour qu'on le remette là où je crois on devrait le remettre, c'est-à-dire parmi les peintres véritablement majeurs de cette période qui pourtant en compte déjà beaucoup, à la fin du 19e, au début du 20e siècle.
Alors c'est un point sur lequel nous nous accordons, vous et moi, c'est que effectivement c'est un artiste extraordinaire qui est peut-être sur des vecteurs qui le rapprochent parfois de l'Autriche, de la peinture autrichienne, de l'Allemagne, je pense à Klimt en particulier, et évidemment, comme vous l'avez fait dans votre travail de cette exposition, Munk, Monet, on aurait pu dire Mondrian également.
On aurait pu dire Mondrian, on aurait pu dire Kandinsky, puisque le court texte d'Hodler qu'on a entendu en ouverture pourrait faire songer à certaines réflexions de Kandinsky sur la manière dont l'idée d'une peinture non figurative lui est venue.
Vous voulez dire mettre
la tête à l'envers m'a fait immédiatement penser à l'anecdote qui est peut-être fausse, mais qui, même fausse, resterait assez significative de Kandinsky. Racontée par lui-même. Voyant une de ses aquarelles posées à l'envers dans l'atelier, se disant, mais au fond, ça fonctionne très bien ainsi. On aurait pu, mais...
Il se rend compte que l'objet nuit à sa peinture. La représentation, finalement, nuit à sa peinture.
Que les quelques lignes qu'il a conservées d'un paysage, un paysage de montagne, d'ailleurs c'est Murnau, ce n'est pas très loin de la Suisse, ne sont plus nécessaires. Et que dans le rapport entre les champs chromatiques, il se passe largement assez de choses pour qu'on puisse faire l'économie de la géographie.
Alors, c'est vrai que le tableau que nous regardons aujourd'hui est ce grand paysage du lac de Thun, est un tableau qui nous entraîne comme une grande série des paysages entre 1905 et sa mort, qui est vers 1918. Vers l'abstraction. C'est un tableau extrêmement étrange parce que fait d'observation et pourtant symboliste et pourtant très silencieux. Il n'a pas le côté bavard du symbolisme.
Cette partie de l'œuvre d'Hodler, Hodler a dû, quelquefois aussi pour dans les débuts de son œuvre, accepter de faire des tableaux que l'on considérerait aujourd'hui comme soit des tableaux d'histoire, soit des allégories civiques, qui l'ont fait glisser quelquefois vers des formes de symbolisme avec lesquelles on est peut-être moins à l'aise aujourd'hui. Mais le Hodler que j'ai préféré, enfin, l'Hodler que je montre, est en effet celui qui est totalement débarrassé de toute espèce de narration. Alors ce qui est étrange, c'est que vous venez de dire ce grand paysage. Et en effet, c'est un grand paysage, mais ce n'est pas un très grand tableau. Il inclut un espace très vaste, très profond, qui donne en effet ce sentiment d'une immensité picturale, dans des formats qui sont à certains égards plus réduits, y compris que ceux des nymphéas de Monet auxquels je le confronte. Mais dans votre description même, vous avez montré cette géométrisation des lignes, les parallèles, les horizontales parallèles, les indentations du fond de la chaîne, et il y a une sorte de construction graphique du tableau à l'intérieur de laquelle la peinture est tendue, comme elle pourrait l'être dans certaines toiles de Seurat. Et en effet, ça ouvre l'espace d'une façon prodigieuse.
Alors ces tableaux de paysage, il y en a eu énormément. Baudelaire a énormément médité sur le paysage, que ce soit le lac de Genève, surtout avec des reflets d'eau. Je pense au lac de Genève, mais aussi au lac de Thun. Ces tableaux sont... Je voudrais revenir sur cette question du symbolisme, parce que ces tableaux sont silencieux, mais ils ne sont pas sans signification. Vous voyez ce que je veux dire?
Je dirais qu'ils ont une densité telle que chaque regardeur, pourvu qu'il soit attentif ou imaginatif, peut s'y attacher et y glisser des idées, des émotions qui lui sont propres. C'est-à-dire que les points de départ y sont, évidemment, mais jamais trop précis. Alors que dans les tableaux symbolistes, généralement, le sens est quand même assez souligné. Là, ce sont des amorces, ce sont des symboles en puissance, si j'ose dire. Et à partir de là, en effet, la rêverie même peut prendre son vol.
En fait, il amène le paysage au seuil d'une signification sans nous brutaliser avec, juste... Parce qu'il a quand même un sens, là où je veux en venir, et où peut-être nous nous séparerons, c'est qu'il a quand même un sens très mystique du paysage, mais sa culture...
Nous nous séparerons nullement. Je pense que le sentiment du paysage, en particulier du paysage alpin, que Baudelaire c'est-à-dire diffuse, enfin orchestre dans ses tableaux, peut aussi bien être compris, si on prend des références littéraires, à travers certaines évocations nietzschéennes, que aussi bien certains romans ou certaines nouvelles d'Hermann Hesse. C'est-à-dire qu'il y a cette amplitude, il y a ce rapport auquel je suis, puisqu'on parle de soi, sensible particulièrement, ce rapport au minéral, ce rapport à la découpe du paysage granitique ou glaciaire, qu'il éprouve très fortement, puisque là aussi, dans les mots que vous avez rappelés de lui-même, il insiste très souvent sur l'importance de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation physique de l'artiste avec la nature, et dans une nature qui, à cette époque-là, est encore relativement vierge et qu'il a le sentiment qu'il est l'un des premiers, non pas à voir naturellement, mais l'un des premiers à peindre. Et donc, il y a une sorte de rapport nouveau qui se crée. Si ce n'est pas la naissance du monde, c'est la naissance de la peinture dans ce monde-là. Est-ce que je veux dire? Il est le premier, par exemple, à installer son chevalet au bord d'une moraine devant un glacier. Et j'aurais tendance à penser que là, il a le sentiment qu'il touche à quelque chose qui n'a jamais été formulé, qui n'a jamais été ressenti dans les termes où lui le formule et le ressent avec ses moyens qui sont par ailleurs immenses et évidemment toujours insuffisants, néanmoins, des couleurs sur sa toile.
Parce que vous avez, je ressens très bien ce que vous dites, parce qu'effectivement, il arrive à une simplification du monde, alors que c'est vrai que la peinture symboliste arrive à une complexification. Alors lui, il arrive à dépouiller, comme le fera Mondrian d'ailleurs, oui. Donc la nature métaphysique de son paysage, qui est un paysage observé, il le simplifie au maximum et il en tire des variations extraordinaires. Parce que parfois, cette fois-ci, c'était une sorte de variation avec des horizontales quasiment musicales. Dans d'autres paysages, il y a une sorte de cercle optique qui se crée et qui devient comme un œuf cosmique, pourrait-on dire, ou une sorte d'origine du monde. C'est les mots que vous employez. Et donc, c'est très extraordinaire. Je suis content qu'on puisse approfondir ça. C'est rare qu'on puisse parler profondément d'une peinture de paysage quand elle ne véhicule pas autre chose que le paysage. Et là, on peut.
Oui.
Alors, je vous propose d'écouter à présent un extrait des écrits de Ferdinand Baudelaire, extrait de La Mission de l'artiste, c'est un des rares textes de Baudelaire, communication rédigée en français par lui-même et publiée pour la première fois dans La Liberté de Fribourg en 1897.
La mission de l'artiste, s'il est permis de le dire, et d'exprimer l'élément éternel de la nature, la beauté, d'en dégager la beauté essentielle. L'artiste fait valoir la nature en mettant en évidence les choses. Il fait valoir les formes du corps humain. Il nous montre une nature agrandie, simplifiée, dégagée de tous les détails insignifiants. Il nous montre une œuvre qui est selon la mesure de son expérience, de son cœur et de son esprit. On reproduit ce que l'on aime, telle figure plutôt qu'une autre. On reproduit le paysage délicieux dans lequel on se plaît. L'émotion est une des premières causes déterminant un peintre à faire une œuvre. Il veut redire les charmes de ce paysage, de cet être humain, de cette nature qui l'ont si vivement ému. C'est par notre œil et notre intelligence que pénètrent en nous les splendeurs dont nous sommes entourés, plus ou moins profondément, suivant les facultés de perception, suivant le degré d'impressionnabilité de chacun. Ferdinand Hodler, La mission de l'artiste, 1897.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs et nous observons avec notre invité Philippe Dagen, le fameux historien de l'art, une œuvre de Ferdinand Hodler qui s'appelle Le lac de Thun et la chaîne de Stockhorn et qui est une œuvre de 1905, un grand paysage que nous avons commencé à examiner il y a quelques minutes déjà. Cher Philippe Dagen, lorsque Hodler commence son travail en Suisse, à Berne, puis ensuite à Genève, je crois. Quel est le paysage de la création à ce moment-là autour de lui ?
Si l'on limitait son horizon à la Confédération helvétique, la peinture est encore très tributaire d'une forme de réalisme assez sombre et assez détaillée qui doit quand même beaucoup à Courbet et plus globalement au réalisme que l'on enseigne aussi bien dans les écoles d'art françaises que dans les Kunstakademies allemandes à la même époque.
Courbet, il l'admirait probablement.
Exactement. C'est-à-dire, quel peintre pourrait, en 1890, ne pas de temps en temps jeter un coup d'œil à Courbet.
Surtout qu'il était dans le Jura.
Oui, mais bon, de toute façon, la question de la neige, par exemple, dans l'exposition traite aussi, aurait pu appeler la présence de quelques-uns des paysages de neige de Courbet, qui est lui aussi l'un des tout premiers à s'y être intéressé. Alors, pour en revenir à votre question...
Donc il admirait bien au-delà.
Admire bien au-delà, et sa culture artistique est une culture véritablement internationale, puisque d'un côté, bien sûr, il connaît l'impressionnisme et il connaît le post-impressionnisme français. Si j'ai cité Seurat tout à l'heure, c'est parce que je suis profondément convaincu qu'il a regardé Seurat et que dans le rapport de la ligne et de la touche colorée, dans certains tableaux d'Hodler, il y a du Seurat à l'arrière-plan. Mais il expose à la Sécession, c'est-à-dire il expose aussi bien à Vienne qu'à Berlin. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'essentiel de son audience est plutôt une audience dans les pays germanophones qu'en France. Ce qui explique peut-être aussi aujourd'hui le retard à la reconnaissance. Et il y a un artiste, enfin il y a deux artistes suisses dont il est l'un des contemporains, et on voit bien comment leurs œuvres peuvent se parler entre elles. L'un est évidemment Valoton, qui a dit sur Hodler des choses qui sont finalement extrêmement élogieuses, surtout quand on connaît le caractère férocement acide du vieux Félix Valoton. Et puis un peintre qui est peut-être encore moins connu qu'Hodler en France, qui est Segantini, qui est l'autre grand paysagiste de la montagne, lui aussi tantôt...
Qui peint juste à côté du lac de Thun, puisque il peint dans les collines de Zermatt, enfin dans les montagnes de Zermatt.
Qui vient du symbolisme et qui lui aussi élargit ce symbolisme à cette sorte de perception panthéiste de la nature dont on parlait tout à l'heure. Oui, il s'est passé à ce moment-là dans cette partie de l'Europe, des choses très importantes en peinture.
Et alors, en dehors de Courbet, est-ce qu'en France, il n'y avait pas un intérêt pour lui, pour les grands peintres décorateurs comme Puvis-de-Chavannes?
Oui, oui, mais j'ai répondu sur Courbet par rapport à la question du paysage. Oui, oui, bien sûr, Puvis-de-Chavannes.
Mais plutôt dans la première période, alors, ce moment-là. Plutôt
oui, et puis probablement aussi des artistes auxquels on penserait moins du côté de la peinture historique, parce que il a dû peindre des hallebardiers, des lanciers, tout le côté peinture civique, peinture d'histoire, avec lequel il a vécu de plus en plus confortablement, puisqu'il était issu d'un milieu extrêmement pauvre. Il est passé par là dans les années 1880 avant de pouvoir vraiment en venir à ce qui, à mon sens, était ce qui lui tenait le plus à cœur, c'est-à-dire d'une part, bon, le paysage, et puis la peinture de la figure humaine, féminine en particulier.
Lorsqu'il était on va revenir sur la représentation féminine, parce que il y a des moments où il la traite avec amour, mais aussi comme un paysage. Et je pense en particulier à la fameuse série de
Valentine.
Valentine. Mmh. Vous pouvez en dire un mot?
Oui, enfin, oui, volontiers. D'autant qu'il avait été question un moment même d'inclure un ou deux tableaux de... Odler a noué un amour avec une jeune Française qui s'appelait Valentine Godet-Darel, dont il a eu d'ailleurs une fille. Et Valentine... on lui a diagnostiqué un cancer dont elle est morte. Elle était hospitalisée à Lausanne. Et tous les jours... Odler habitait alors Genève. Tous les jours, il allait de Genève à Lausanne. Comment on peut dire dans ces cas-là, enfin,
la veiller,
l'accompagner dans sa chambre, et il a en effet réalisé une série de dessins, de gouaches, de tableaux qui sont une sorte de chronique de l'agonie et de la mort de Valentine. Et je ne connais aucun autre exemple dans l'histoire de la peinture d'ailleurs d'une telle chronique
Monet.
D'une agonie.
Monet.
Alors oui, mais Monet, le portrait de Camille morte, c'est un,
oui.
Il y a un tableau.
Oui, c'est pas une série.
Ce qui est absolument bouleversant, c'est que la Fondation Beyeler avait organisé une exposition Odler il y a quelques années. Il y avait une salle qui était entièrement consacrée à la mort de Valentine. Vous étiez entouré là d'une douzaine au moins de tableaux. C'était extrêmement... c'était réellement très douloureux.
Mais c'est absolument sensationnel. C'est du point de vue de la peinture, c'est d'une façon d'atteindre un impossible, là encore, absolument extraordinaire.
Mais l'autre impossible... dont on aurait pu traiter, mais très honnêtement, là, c'est une question de prêt qui nous a fait défaut, parce que j'avais évidemment pensé à l'origine confronter les portraits de Valentine à l'agonie au portrait de Camille morte, mais le musée d'Orsay, nous en ayant refusé le prêt, il devenait impossible de poursuivre, d'autant que du côté d'Edouard Munch, les éléments de comparaison étaient aussi extrêmement nombreux. Donc là, c'est un petit peu les circonstances qui nous ont empêchés d'aller jusqu'au bout de l'analyse.
Pour revenir un petit peu à ce contexte historique que nous essayons de planter, puisque nous avons déjà parlé un petit peu de ce paysage, on y reviendra bien entendu en détail sur la construction en général de ces paysages et les questions de la série. Odler vient en France, connaît la France, expose en France. Comment est-ce que ça se passe?
Odler vient en France, il expose, il passe. Ses tableaux qui participent à des expositions que lui-même. Il est assez, il ne cherche pas particulièrement à nouer des relations très intimes avec des artistes. Il vient, mais il ne reste pas. Il rentre assez rapidement. Mais au demeurant, c'est pareil avec Vienne ou Berlin. Hein. Il est vraiment centré sur ses montagnes et ses lacs, et il ne les quitte guère. Ceci étant...
Il y avait quand même eu un scandale en Suisse, d'ailleurs, hein, sur la nuit, par exemple, grand tableau.
Il y a eu le scandale de la nuit.
Qui a été montré en France.
Sur la France, il y a une chose qui, d'ailleurs, probablement pourrait justifier aussi qu'on s'y intéresse fortement, c'est que Odler, dont la plupart des collectionneurs étaient en Allemagne dans l'Empire autrichien, fait partie des artistes et des intellectuels internationaux qui ont signé la pétition contre le bombardement de la cathédrale de Reims au moment dans les premières mois.
Ça, c'est en 1915.
Ouais, dans les premiers mois de la Première Guerre mondiale.
Et ça lui a porté tort.
Et il a été immédiatement décroché des musées allemands dans lesquels il était présent.
Ah oui. Et donc,
Quand ils montrent ces tableaux en France, là, ils sont suivis
Les tableaux symbolistes sont, j'allais dire, honorablement appréciés. Dans toutes les expositions universelles, donc en 89, en 1900, il y a des tableaux d'Odler dans la représentation, dans la délégation suisse, dont on reconnaît les talents. Mais encore une fois, ce qu'on aime chez lui à ce moment-là, c'est la peinture vraiment, vraiment symboliste. Vraiment symboliste. Vous avez évoqué la nuit, qui a en effet fait un petit scandale d'impudicité cité en Suisse quand le tableau a été connu.
Puisque vous pouvez le décrire.
C'est-à-dire que c'est une sorte de paysage neutre et pénombreux dans lequel des corps des deux sexes déshabillés ou complètement nus sont allongés et on peut dire un peu entrecroisés les uns par rapport aux autres, ce qui a donné à penser à certains que c'était un tableau obscène, alors que la nuit était plutôt la nuit du rêve, voir la nuit de la mort.
Parce qu'il y a une sorte de... la mort est sur le ventre de l'autoportrait d'Odler au cœur du tableau.
Ça n'a rien d'obscène, mais c'est... Bon, on est dans une période où ce genre d'accusation allait vite. Et en effet, son tableau a été très mal...
Ça revient.
C'est certain. Ce tableau a été très mal accepté en Suisse et, comme souvent... Mieux en France,
mieux
à Paris.
Reçu en France.
Et d'ailleurs, c'est un des tableaux d'Odler qui, aujourd'hui encore, ça je l'ai découvert avec très satisfaction, continue à être très connu, y compris de jeunes artistes. Et on pourrait en citer qui ont regardé assez attentivement la nuit, essayé de dessiner ou de reprendre des éléments du tableau. C'est probablement l'une des œuvres les plus séminales d'Odler. Or, celle qui nous intéresse dans l'exposition.
Alors, Odler, très jeune artiste à Berne, peint quasiment à la chaîne pour son professeur de l'époque des lacs, pour les touristes,
oui.
En quelque sorte.
Oui.
C'est ça, hein ?
Oui, oui, c'est de la peinture touristique, c'est de la peinture alimentaire.
À partir de 1904, il recommence à peindre des lacs, cette fois-ci pas pour les touristes, quasiment plus pour un approfondissement intérieur, pour une exploration intérieure. Est-ce que ces séries... Je parle des deuxièmes, ont une relation avec l'art de la série de Monet.
Totalement. C'est aussi l'une des choses que je voulais suggérer, en effet. C'est que il y a une idée de... Mais là encore, on l'a entendu tout à l'heure. Il dit, on ne peint bien que ce qu'on connaît bien. Et lui, pour lui, bien connaître, c'est non seulement revenir voir tous les jours, c'est de longues stations. On n'a pas montré de dessin, mais quand, par exemple, la chaîne du Stockhorn, dont il est question dans le tableau, ou la chaîne du Mont Blanc, vue de la fenêtre de son appartement à Genève, il les a étudiées au crayon en allant jusqu'à indiquer les altitudes. Enfin, il y a un travail de repérage géologique en amont du travail pictural.
Mais c'est une espèce, pardon de revenir sur les Helvètes qui m'enchantent, comme vous le comprenez, mais c'est quand même une caractéristique, cette peinture alpine est une spécialité suisse.
Bah, oui, enfin, ça c'est assez prévisible.
Il peigne
globalement
ce qu'ils ont sous les yeux.
Mais il y a une différence quand même considérable, c'est que Odler peint non pas simplement ce qu'il a sous les yeux, mais ce qu'il peut désormais voir plus commodément, voire même plus confortablement, et que des générations précédentes de peintres ne pouvaient pas voir, faute des moyens techniques d'y accéder. Même si c'est une explication...
Oui, lui, il grimpe.
Oui, non, mais... c'est plutôt les trains qui grimpent.
Vous pensez que c'était... Ah oui, je le voyais en marcheur, non?
Non, je pense qu'il faut plutôt le voir aussi un homme qui bénéficie des transformations de son temps.
Des moyens de tourisme nouveaux, le
sûr.
Train, vous le citiez,
le train,
et la photographie.
Et la photographie avec laquelle
qui l'a collectionné, non ?
Où s'en est servi. C'est surtout Munch et Monet qui ont un rapport de rivalité et de documentation simultanément à la photographie. Non mais... Le grand voyageur qui n'est pas suisse au demeurant, dans les Alpes au début du 19e siècle, c'est Turner. Bon, Turner traverse les Alpes. Bon, Turner, il peint ce qu'il peut voir, c'est-à-dire les Alpes d'en bas. Donc, il y a bien des sapins, des mélèzes, des cascades, mais c'est tout. Odler, lui, un peu moins d'un siècle plus tard, il peut monter. Quand il fait un tableau de la Jungfrau, par exemple, au-dessus de la mer de nuages.
Magnifique.
Pour nous, aujourd'hui, ça paraît une chose, j'allais dire, presque banale. C'est comme quand Georgia O'Keeffe peint les Rocheuses vues d'avion, on se dit, bah oui, évidemment, Georgia O'Keeffe, elle prend l'avion pour rentrer chez elle. Ok. Sauf que quand...
Grande artiste américaine, symboliste, dont, que nos auditeurs connaissent un peu parce qu'on en a parlé.
C'est une excellente chose. Quand Odler peint la mer de nuages, il la peint parce qu'il peut la voir. Et là, il peut l'avoir parce qu'il peut accéder à des points suffisamment hauts pour en avoir la perception physique.
Alors, il faudrait qu'on revienne sur ces questions de la peinture d'en haut, parce que ça peut évoquer aussi, par certains moments, le romantisme allemand. Je pense au Gaspard Friedrich, évidemment. Mais aussi des tableaux étranges de Hodler, où il représente au sommet d'une montagne un jeune enfant nu.
Oui.
Et quasiment inversé par rapport à la figure d'Hodler, et nu comme un nouvel homme.
Peinture de la naissance du monde.
Peinture de la naissance du monde.
Et, et quand on parlait de Segantini tout à l'heure, il faut pas oublier que Segantini allait mort. Segantini avait installé son atelier si haut dans la montagne que, alors qu'il s'est déclaré une appendicite, qui était quand même une chose relativement banale et qu'on savait parfaitement soigner au début du XXe siècle, le temps qu'on le redescende dans la vallée, il est mort. Donc, il y a vraiment une idée d'aller aussi loin que l'on peut aller désormais, et donc beaucoup plus loin que ce que l'on avait pu atteindre précédemment. Or, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les photographes, mais c'est presque plus une chose française que suisse.
Est-ce qu'il y a une relation entre, comme vous le savez mieux que moi-même, on est dans une période où il y a des rêveries architecturales, romantiques, qui consistent à imaginer, construire des cathédrales dans les montagnes, des cathédrales de verre dans les montagnes, par exemple. Est-ce que la montagne symbolise à ce moment-là, pour Hodler et les autres, la pureté absolue, l'idéal? Comment est-ce que vous...
La pureté absolue, l'inaccessibilité, l'origine du monde, mais alors l'origine du monde au sens...
Spirituel ou cosmique?
Les deux. Et même trois, cosmique, spirituel et géologique. Et puis, j'ai fait brièvement référence à Nietzsche tout à l'heure, enfin, Wes, l'expérience de l'altitude, c'est-à-dire de l'éloignement. C'est peindre la montagne, ça peut paraître tout bête à dire, mais peindre la montagne, c'est s'extirper des villes. C'est-à-dire abandonner la civilisation urbaine qui est déjà perçue comme tout à fait, douteuse, voire même vicieuse, pour retrouver un mode de vie d'une simplicité et d'une rusticité. C'est au fond, c'est une forme de primitivisme qui
au lieu d'aller dans les îles du Pacifique se retrouve.
Absolument. Mais c'est quand Kirchner, le peintre expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner, est enfin autorisé à quitter l'asile où la Première Guerre mondiale l'a fait enfermer. Il ne rentre ni à Berlin ni à Dresde, qui sont ses villes. Il va s'installer dans les Alpes, dans un chalet, dans une cabane très haut dans la montagne, là où il n'y a pas d'électricité, cette expérience-là de l'isolement et de la séparation du monde est perçu par lui, comme par Hodler d'ailleurs, comme au fond le moyen le plus proche qu'ils aient de rompre avec ce que la civilisation industrielle est en train de développer dans le monde.
Alors je vous propose, puisque vous en parliez tout à l'heure, vous avez cité Valoton et sa cruauté bien connue, écoutons donc Valoton. Hein. C'est un texte à propos de Hodler paru juste après sa mort en 1920.
S'il fallait en un mot définir l'apport de Hodler, je reprendrais volontiers celui-ci, l'ordre. Il mit de l'ordre dans les allées artistiques envahies de végétation parasitaire et de mousse. Il en mit même avec excès, et tel un tank écrasa tout. Mais son soc rajeunit l'humus un peu fatigué, et l'on vit derrière lui réapparaître le grand dessin primitif. Sa théorie du rythme de conception, un peu grosse et faite pour les aveugles, et l'exagération même de ce besoin. Il crie ses vérités et les juge plus vraies d'être criées. Degas disait un jour de Cézanne, « Ah oui, celui qui croit qu'un kilo de bleu est plus bleu qu'un demi-kilo. » Le mot pourrait aussi se rapporter à Hodler. Félix Valoton, à propos de Hodler, 1920.
«
Vous écoutez l'émission Les Regardeurs sur France Culture, évidemment, et je suis avec notre invité, l'historien d'art d'Agen, Philippe, remarquable, qui vient de faire une très belle exposition au musée Marmottan, et nous parlons de Monsieur Hodler, grand peintre, et en particulier d'un paysage magnifique de 1905. Et nous entendions à l'instant Félix Vallotton dire, répéter ce que vous aviez présumé.
C'est plutôt l'inverse, tout de même.
C'est quand même vous qui l'avez répété, oui, c'est vrai.
Oui, soyons modestes. Mais je me passerai du tank dans la citation de Vallotton.
Mais alors, il cite un artiste dont on n'a pas parlé, et qui quand même, quand on parle de montagne, ne peut pas être absent, Cézanne. Est-ce que Hodler et Cézanne se sont regardés?
À ma connaissance, non. Mais c'est en effet une excellente question. Cézanne, de toute façon, a finalement passé les années 1870 assez peu regardé la peinture des autres pour se concentrer sur la sienne. De toute façon, il était...
La grande exposition de Cézanne, c'est la même année quand même, c'est 1905, non?
Alors, il y a eu plusieurs expositions au moment de la mort de Cézanne. Il y a eu une rétrospective Cézanne au Salon d'automne. Ouais. Mais en effet, il y a eu aussi une exposition en 1907, puisque Cézanne est mort en...
En ces eaux-là, en tout cas.
Mais je n'ai jamais trouvé mention d'une curiosité d'Hodler pour Cézanne. Et pour avoir jadis travaillé sur Cézanne, je ne me souviens pas d'avoir constaté. Mais ça ne change rien.
Non.
Vous pourriez très bien dire ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la chaîne du Stockhorn, ce qu'on a dit de la Sainte-Victoire. Et au demeurant, le mot de Vallotton l'emploi du terme primitif, et Vallotton le sait très bien parce que lui connaît parfaitement l'œuvre de Cézanne. Et l'une des formules de Cézanne qui est le plus répétée dans cette époque-là, c'est qu'il veut être le primitif d'une nouvelle peinture.
Ce que dit Gauguin aussi d'ailleurs.
Oui, sauf que Cézanne réalise peut-être encore davantage ce projet-là que Gauguin qui fait un peu une peinture de littérateur.
C'est une autre discussion.
Mais quand vous voyez surgir la Sainte Victoire dans les tableaux de Cézanne, vous êtes en effet pas très loin de ce que l'on a montré. Mais oui, alors j'aurais dû en effet inclure Cézanne, j'aurais dû inclure Van Gogh, ne serait-ce que pour le motif de la nuit, puisque ces peintres ont aussi poussé l'extravagance jusqu'à essayer de peindre la nuit.
Je trouve que La peinture impossible, c'est une dont vous parlez, qui est le sous-titre de votre exposition, je le rappelle, et qui est un mot de Monet, parlant de l'eau.
Oui.
Et c'est vertuant à peindre l'impossible, c'est-à-dire le mouvement perpétuel. C'est un thème général d'exposition qui peut être assez extraordinaire. Hein.
Écoutez, je vous remercie de me le dire. Et puis, je peux même aller jusqu'à dire que puisque votre émission se met même sous l'invocation de notre ami commun Marcel Duchamp, Les Regardeurs, je pense qu'à certains égards, cette peinture impossible a à voir avec la remise en cause de l'activité picturale qui, à un certain moment, prend la forme de Duchamp. Jusqu'où peut-on aller avec de l'huile, des tubes, des brosses et un rectangle de toile tendu sur des bouts de bois, avec la photographie, avec le cinéma, il y a tout un tas de sujets qui tombent, qui deviennent obsolètes. Donc la peinture doit se concentrer sur des choses de plus en plus simples à la fois et donc de moins en moins accessibles, la lumière, le soleil, l'eau. Et donc oui, j'ai bien conscience du fait que peindre l'impossible, c'est une thématique que l'on pourrait
décliner
et qui deviendrait peut-être un élément de compréhension de l'ensemble de cette période. Le tableau d'Hodler dont nous parlons est contemporain de La cage aux fauves, c'est-à-dire des premiers tableaux du fauvisme de
même année, de effectivement,
Matisse de Reims. Enfin, ça me semble pas pouvoir être totalement fortuit.
Alors, pour nos auditeurs qui prennent des notes, Cézanne, 1906. Hein, désolé d'avoir 17. Je pense que je serai pardonné dans plusieurs émissions. Et, cher Philippe d'Agen, je voudrais revenir sur la critique que fait Vallotton parce que il parle avec une sorte de violence comme ça, d'une lourdeur de tank un petit peu. C'est ce qu'il dit, le mot tank. Et je pense qu'il le fait à propos d'une théorie sur laquelle Hodler a beaucoup insisté. Il insiste dans ses textes et ses propos, et au fond, il insiste aussi dans ses tableaux, mais autant dans les tableaux ça paraît léger et merveilleux, autant dans ses textes ça l'est moins, c'est le parallélisme. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, ce parallélisme ?
J'aurais tendance à vous répondre que ça veut dire simplement qu'Odler a été sommé de s'expliquer sur ses tableaux et que donc, comme on voit beaucoup d'artistes et pas seulement des peintres le faire, il s'est réfugié derrière un certain nombre de notions, un certain nombre de thèmes qui n'éclaire pas nécessairement la totalité de sa production, mais sont au fond des idées relativement simples auxquelles la critique, par exemple, peut s'attacher. Je ferai à peu près le même sort au parallélisme selon Odler, qui consiste à dire que donc il faut composer un tableau avec, je crois que le terme est assez explicite, hein, avec des systèmes de lignes qui se font écho. Le parallélisme ne suffit pas plus à expliquer la peinture d'Odler que les simultanéismes ne suffit à expliquer la peinture de Delaunay. C'est des slogans, quoi.
Non pas pour vous contredire, parce que je partage évidemment ce que vous dites, mais pour approfondir le climat de l'époque. On est quand même dans un climat dans lequel Odler participe à des expositions Versacrum, du Sarpe-Ladan, de la théosophie. Il est dans cette sorte de vision du monde. Et donc, ce parallélisme, c'est-à-dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à gauche est comme ce qui est à droite, etc. C'est une vision spiritualiste, d'une certaine façon. Essayer de trouver la clé cosmique du monde, quelque chose comme ça. Alors, c'est l'époque, non ?
Là, pour le coup, je vais reprendre votre expression de tout à l'heure, nous allons nous séparer.
Il a néanmoins été dans ses expositions, certes, très, très théorisé d'un point de vue...
Très théorisé et très marqué aussi par la propagation des recherches et des découvertes et des sciences de son époque.
Un mélange entre science et un syncrétisme religieux.
C'est-à-dire que les sciences, pensez, je sais pas, l'atomisme par exemple, fait comprendre que ce que nous voyons du monde n'en est pas la structure.
C'est ça.
C'est déjà pour un peintre un réel problème. Donc, il y a à la fois le recours, quelquefois maladroit, vous disiez d'Odler, à des notions qui ont un caractère pseudo-scientifique, l'emprunt à la science, aux sciences physiques, la passion de Munch pour les rayons X, la passion de Kubka pour le nucléaire, enfin ce que l'on sait de la structure nucléaire, de la matière à cette époque-là, et puis cette issue, en effet, qui serait de l'ordre du transcendantal. La théosophie, ben, si on touche à la théosophie, on va très rapidement se retrouver dans l'antichambre de Mondrian. Et en effet, il y a là aussi des passerelles.
La représentation de l'eau chez Mondrian est à quelque chose de structurant et structurel comme chez Odler.
Ben, il faut peindre, puisqu'on sait désormais que les choses ne sont pas exactement ce que l'on voit, il faut en peindre les principes.
C'est ça.
Et non pas la surface. Donc, dans le cas de Mondrian, au fond, le parallélisme odlérien pourrait, à certains égards, se retrouver dans le néoplasticisme mondrianesque.
Inspiré par les mêmes choses.
Oui, exactement. L'horizontale a une fonction à la fois physique et symbolique. La verticale, en tout cas chez Mondrian, a aussi des fonctions symboliques. Et Mondrian en vient aux trois couleurs primaires qui seraient le noyau même de la visibilité du monde. Odler n'est pas très éloigné de ce genre de réduction à l'essentiel. Alors, d'essentialisme pictural, si on peut dire ça comme ça.
Oui, trouver le noyau des choses, vraiment. Et l'invisible structurant le visible. Quelque chose comme, l'invisible pas au sens mystique, non, mais au sens
philosophique. Il y a sous le visible un invisible central. Oui.
Alors je vous propose d'écouter enfin Guillaume Apollinaire, un texte paru en 1918, à la mort de Ferdinand Odler.
Le plus grand peintre suisse contemporain et l'un des plus grands de cette époque, Ferdinand Odler, vient de mourir. Il était né à Gurzelen, canton de Berne, en 1853. Il fut l'élève de Barthélemy Maine, artiste pour ainsi dire inconnu, qui avait passé par l'atelier d'Ingres. À ce propos, il n'est pas indifférent de remarquer l'influence de Monsieur Ingres, que les critiques d'art, pensant le desservir, qualifièrent d'abord de gothique, sur certains maîtres contemporains. Degas et Odler, par exemple. Odler visita Paris, vagabonda à travers l'Espagne et subit profondément l'influence de Courbet. Il lui est redevable de tout son réalisme. La contemplation d'une toile comme l'enterrement d'Ornan lui révéla ses propres dons. La puissance et la simplicité. Guillaume Apollinaire, mort de Ferdinand Hodler, 1918.
Cher Philippe d'Agen, vous qui êtes notre invité pour ce regard sur Hodler paysagiste, je voyais maugréer en entendant les paroles d'Apollinaire.
Non, je ne maugréais pas. J'observais simplement qu'Apollinaire, en 1918, veut rattacher Hodler à un grain et qu'on est dans une période, et Apollinaire ne fait pas exception, où les interprétations à caractère relativement nationaliste dans l'histoire de la peinture sont prédominantes et que donc, attacher ce peintre suisse à Ingres, c'est une fois de plus dans cette période le dégermaniser, si j'ose dire, en dépit de son nom, et le rattacher à une tradition. Quand Valoton en 1920 parle d'ordre, le terme n'est pas non plus tout à fait neutre. Hein.
On est quand même. Mais même gothique, on peut. Gothique, derrière gothique, il y a le mot Allemagne.
Absolument. Hein.
C'est les Goths.
Oui. Ouais. On est quand même dans une période où les sous-entendus, quelquefois un peu plus que sous-entendus d'ailleurs, nationalistes sont extrêmement présents. Valoton aussi, mais enfin, naturellement, Hodler a vu Ingres comme il a vu Courbet. Ceci étant, l'inscrire de manière aussi déterminée dans une filiation exclusivement française, ça me paraît un tant soit peu abusif quand on pourrait aussi bien citer Friedrich. On a parlé tout à l'heure des rapports d'Hodler avec la sécession. Bon, on est en 1918.
Oui. Et alors, Apollinaire, un peu plus loin, c'était pas dit dans cet extrait, Apollinaire dit « Hodler leur fournissait, il parle des Helvètes, ces décorations démesurées où s'alliait une sorte de brutalité soldatesque et un délire métaphysique. Il lui manquait cette grâce qu'il eût imposée à Paris. » C'est curieux, il l'admire et en même temps, il l'accuse.
Oui, mais c'est qu'Apollinaire ne connaît que la peinture...
Décorative.
Ben oui, militaro-politique helvète, en effet, de Hodler. Parce que c'était à travers cela qu'il était connu. Je suis convaincu que si Apollinaire nous faisait l'amitié de venir visiter l'exposition, il en ressortirait avec un sentiment tout différent sur Hodler.
Je dois dire que les paysages que vous montrez et ceux que nous connaissons de Hodler sont incroyables. Et parfois, je pense, puisqu'on évoquait cette question du parallélisme qu'il explore comme une commodité structurante, on l'expliquait, qu'il l'oblige quand même à mettre sa tête entre ses jambes, disait-il tout à l'heure. Cette composition en registre très caractéristique, on la retrouve quand même chez Roscoe, par exemple, chez ces grands artistes abstraits américains.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et peut-être y a-t-il, alors on ne va pas aller jusqu'à à supposer qu'il y aurait des invariants plastiques, comme disait Lott des années plus tard, mais il y a probablement en effet des effets émotifs induits par le parallélisme des formes. Parce que, en aval, il y a Rothko, en amont, il y a Friedrich. Les grands paysages de Friedrich, les glaces, le moine au bord de la mer sont des tableaux qui sont conçus sur des systèmes de très longues horizontales et tirés d'un bord à l'autre du tableau. Et Rothko verticalise tout cela et... Peut-être même Newman aurait-il quelque chose. Enfin, certains tableaux de Newman, pas ceux des îles verticaux.
En tout cas, ce qui est juste chez les artistes que vous avez cités, Roscoe, Newman, Friedrich, Mondrian, c'est que ce sont des métaphysiciens tous.
Il y a une ambition métaphysique dans leur peinture, et ce sont très souvent des artistes qui, et c'est peut-être pour ça au fond que je les aime tant, attendent de la peinture qu'elle suggère, qu'elle donne à sentir autre chose que la simple vision du monde. Ce sont des visions habitées, ce sont des visions déterminées par des idées et qui ne sont pas forcément des idées assénées, mais qui sont des idées induites. Il faut suivre la pensée du peintre à travers son tableau, même quand, a priori, on croit qu'on ne regarde qu'un lac et une chaîne de montagnes.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les relations... par exemple, dans la peinture de la neige avec Monet, dans celle de l'eau, qui est très différente comme texture, hein, beaucoup plus plate chez Hodler, beaucoup plus animée de traits qui deviennent, vous le dites très bien dans votre catalogue, comme la danse de l'artiste, les mouvements de l'artiste comme ça qui sont peints et qui deviennent l'eau elle-même. Et dans votre exposition, il y a un troisième artiste qui est évoqué, c'est Munch. Oui. Où se rencontre donc, votre esprit, Munch et Hodler?
Dans le fait que, au même moment, et ils ont affronté les mêmes difficultés. Munch a été, comme Hodler, un peintre de la neige, un peintre de la pleine lumière, un peintre...
Vous pouvez le resituer un petit peu, Munch, pour nos auditeurs.
Munch, c'est le plus jeune du trio. Mais Munch commence véritablement à peindre dans les années 1880, mais a une vie beaucoup plus longue, puisque Munch dure, entre guillemets, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un cas d'autant plus comparable à celui d'Hodler, que là aussi... Il y a évidemment quelques tableaux archi-célèbres qui font écran, le fameux Crime et quelques autres, qui font uniformément considérer Munch comme un symboliste, ce qu'il est dans une partie de son œuvre, mais ce à quoi je me suis intéressé, c'est une autre partie de l'œuvre de Munch et qui correspond. Je crains que je ne pourrais guère que me répéter par rapport à ce qu'on vient de dire préalablement. Quand on parlait du rapport à la transcendance et à la science en même temps, Munch est celui qui essaie de peindre le soleil en face en se demandant comment la peinture peut donner le sentiment à la fois de l'éclat du soleil et de la trajectoire et du rayonnement des ondes lumineuses qui s'en échappent. Donc, quelque chose qui est...
Ce Munch là est très proche de Delaunay, presque.
Absolument. Et quand vous disiez à propos de certains Valotons qu'on a de certains Hodler qu'on a le sentiment de l'œil, le soleil chez Munch devient un œil qui dévisage le spectateur exactement comme lui dévisage le soleil. Donc leur proximité, elle est précisément là encore dans la mise en difficulté de la peinture. Quand on a fait référence à la nuit tout à l'heure, ce que l'on ignore souvent de Munch, c'est qu'il a réalisé une série de tableaux de paysages de neige la nuit, où son attention est consacrée aux planètes. Bon, qu'est-ce qu'un peintre peut faire avec la représentation des planètes dans la nuit?
Ils s'y sont tous mis, parce que Kupka aussi...
Et Van Gogh le premier.
Van Gogh, bien
entendu. On est dans cette grande histoire-là.
Quels sont les... Vous pouvez rappeler... me rappeler les différents chapitres que vous avez choisis sur cette idée de la peinture impossible?
Alors, il y a d'abord, dans l'ordre de l'accrochage, il y a la question de l'altitude, de la montagne, de ce dont on a parlé tout à l'heure, la vue en surplomb, la vue d'un point de vue élevé. Il y a le soleil, avec la confrontation qui était un petit peu...
Une sorte d'éblouissement à la Turner, en fait.
Voilà, mais aussi la confrontation d'impressions soleil-levant, puisque l'exposition est au musée Marmottan, et des soleils de Munch, la neige, à propos du voyage de Monet en Norvège, à propos de l'expérience quotidienne de la neige chez Hodler et chez Munch, qui sont tous les deux quand même confrontés à ce motif très régulièrement, la nuit... L'eau que vous avez citée tout à l'heure, qui évidemment est un point commun à tous les trois, avec en particulier un tableau de, je crois qu'il n'a jamais été montré à Paris, un tableau de vague de Munch, à propos duquel évidemment on peut aussi bien évoquer Courbet, mais à propos duquel on pourrait aussi évoquer Cézanne. Et je pense que Cézanne et Munch ont peut-être plus encore à faire l'un avec l'autre que Cézanne avec Hodler. Et puis l'exposition finit sur... Au fond, elle finit, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une espèce d'ouverture, de libération de la couleur, de la ligne. Des derniers tableaux de Monet qui sont quand même des choses invraisemblablement embrouillées et en même temps qui ont un éclat formidable. Des Hodler, dont d'ailleurs celui dont on a parlé, et des tableaux de Munch où Munch lâche totalement le lien à la réalité pour inventer une nature extraordinairement chamarrée, en même temps d'une substance nuageuse. Enfin, les rochers ou les figures perdent de leur substance pour devenir une espèce de spectre coloré.
Dans l'obsession de la mort, évidemment, dont on a parlé à plusieurs reprises, même la nuit en étant l'un des exemples pour Hodler, eh bien, est-ce que vous pensez possible, ce sentiment, puisque sur la partie haute et basse, il y a ces grandes montagnes et ces petits cailloux dans la partie basse. Vous pensez que c'est une sorte d'exemple de la disparition de l'éternité ou de la... du caractère non éternel des géants. Est-ce que vous pensez qu'il va dans une direction aussi littéraire, si je puis dire?
Ma réponse sera indirecte. Parmi les grands tableaux à horizontale bouleversant l'histoire de la peinture, il y a le Christ mort d'Holbein, du musée de Bâle, qu'il connaît évidemment et qui est un tableau entièrement conçu sur ce système-là. Il est probable qu'en effet, l'idée de l'horizontalité est difficilement dissociable de celle du corps allongé.
Alors, le tableau de Holbein de Bâle est un chef-d'œuvre et c'est même quasiment une déclaration religieuse du protestantisme. C'est absolument un tableau absolument parfait.
Et vous voyez qu'on revient d'ailleurs à travers le protestantisme à la question religieuse qu'on a évoquée, puisque Hodler et Munch sont tous les deux issus de familles et de sociétés réformées.
Est-ce qu'il y a une rencontre entre Monet et Hodler, où on a une certitude de la connaissance? Parce que on parlait au début de l'émission de Kandinsky qui renverse son tableau, mais on sait que les meules ont compté pour Kandinsky puisqu'il les voyait quasiment abstraites.
Oui.
Et est-ce que les meules ont compté pour Hodler?
On n'a aucune idée. On n'a pas de témoignage. On n'a pas le sentiment que ces peintres aient voulu se rencontrer. C'est pas du tout mon propos, c'était pas du tout de faire l'histoire d'une rencontre physique, mais vraiment de montrer, comme vous l'avez dit vous-même en reprenant le thème de l'impossibilité, montrer comment trois artistes que l'on classe généralement complètement dans des tiroirs différents, qui sont trois nationalités, etc., ont rencontré au même moment les mêmes problèmes. Quand Monet est allé en Norvège, qui est quand même le pays natal de Munch, et Munch est déjà honorablement connu à ce moment-là, Monet n'a jamais manifesté la moindre curiosité pour les peintres norvégiens. Et Munch n'a jamais manifesté le désir de rencontrer Monet à Giverny.
Et Hodler non plus. Et pourtant, ils avaient entre eux Strindberg, la scène française, la circulation de la culture européenne était fantastique.
Les passeurs ne manquaient pas. Vous pouvez penser à aussi bien Octave Mirbeau. Enfin, oui, bien sûr, mais non.
Et Apollinaire.
Et Apollinaire
bien,
plus tard.
Bien entendu. Merci Philippe Dagen pour cette belle exposition que vous avez faite. Je rappelle les dates. Elle se termine quand ?
Elle se termine fin janvier.
Au musée Marmottan.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé une huile sur toile et analysé le lac de Thun et la chaîne du Stockhorn. Une chaîne qui se trouve effectivement près de Zermatt, réalisée en 1905 par l'artiste Ferdinand Hodler. Nous étions en compagnie de Philippe Dagen, commissaire de l'exposition Hodler, Munch, Monet, la peinture impossible, qui a lieu au musée Marmottan jusqu'au 22 janvier 2017. Exposition dans laquelle vous pouvez admirer l'œuvre dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr dont s'occupe merveilleusement notre attaché d'émission et du site internet Sylvia Favre. Merci Sylvia. Lecture des textes Gabriel Dufay, à la technique Jean-Richard Dufour. Réalisation Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de l'excellente Sandra Adam et Jean Deloisy. Et la semaine prochaine, nous recevrons Bernard Marcadet pour parler de l'exposition René Magritte, La trahison des images, qui a lieu au Centre Pompidou jusqu'au 23 janvier 2017. Go until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to